Pourquoi une guerre civile au Soudan et pourquoi en Syrie un conflit qui, quoique interrompu, risque de repartir de plus belle au premier retrait des forces d'intervention étrangères? On peut se poser la même question quant au Liban, qui vit un petit répit et dont les histoires modernes et contemporaines ne furent qu'affrontements et antagonismes étalés sur des décennies, même si ponctués de cessez-le-feu et d'armistices. Que serait la Jordanie si une autorité vigilante n'y exerçait des frappes dissuasives à l'encontre des sources de menaces potentielles? Il faudrait se résoudre à l'idée que dans le monde arabe le principe réside dans la confrontation violente et que c'est le succès des armes qui génère des laps de paix civile, ces exceptions à la règle générale de belligérance ininterrompue. Ainsi, dans nos parages, les périodes d'apaisement ne sont que des trêves, des intermèdes imposés par l'écrasement de l'adversaire ou l'épuisement des protagonistes, à moins d'être dictés par le concert des nations. C'est à croire que certains pays de la région MENA ne peuvent faire mieux. Et l'on a tort d'évaluer leurs prestations à l'aune des valeurs démocratiques qui font la spécificité du monde occidental et des pays de l'Atlantique Nord. L'exception libanaise. Dans tout pays arabe, il y a une guerre civile qui couve, qui attend son heure. Le Liban n'échappe pas à cette fatalité, avec cette différence, qu'au plus fort des combats, on y négocie, hein. Henri Jalabert S.J., fin connaisseur de nos idiosyncrasies, a souligné la préférence de nos états-majors pour le compromis et leur répugnance à opter pour l'épreuve de force décisive. Ce ne semble pas être le cas en Syrie, où l'on entend réduire l'adversaire sans laisser de place aux concessions et accommodements. Gérard Chalian, 2, n'avait pas manqué d'observer que, malgré l'existence de milieux éclairés, la tradition, qui continue de prévaloir entre Damas et Alep, exige que le vainqueur l'emporte sans partage, 3. Mais en dépit de cette différence, le pays du Cèdre n'échappe pas à la règle selon laquelle la violence régit la compétition au niveau de l'État. Ce qu'a cherché à noter Dominique Chevalier qui, prenant en considération les traits fondamentaux de la société du Mont Liban au VIe siècle, comme le milieu familial et villageois, l'agriculture méditerranéenne de montagne, le fisc ottoman ou la législation musulmane, se demandait si la permanence de ces traits ne vouait ladite société à une évolution agitée mais très lente, 4. Laquelle agitation semble, d'après cet auteur, dépendre de la démographie, 7, première mesure qui permet de repérer le dynamisme des différentes communautés, dans leur rapport avec l'extérieur comme dans leur mouvement interne, dans leur situation géographique, 5. Ces leçons tirées de l'histoire du Mont Liban peuvent valoir pour le Liban dans ses frontières de 1920, si l'on a à considérer son siècle d'existence dans les réussites, les dissensions et le tumulte. Querelle d'identité? Commentant le livre de Samir Kassir, si, sur notre conflit civil, Franck Mermier avait considéré que ce dernier contredisait l'idée courante selon laquelle la guerre du Liban qui a éclaté en 1975 était constituée de plusieurs guerres. Il avait, en outre, déclaré que cet ouvrage avait mis en exergue l'idée de cycle de guerre ou de guerres hybrides. Des propos qui ne sont pas sans rappeler la fameuse formule d'une guerre pour les autres, forgée par Ghassan Tueni, pour définir les affrontements fratricides dont le Liban fut le théâtre, 7. Or bien avant Samir Kassir et autres glossateurs, Kamal Salibi avait cherché à tirer les leçons de la guerre des deux ans, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Il avait cru pouvoir dire que ce conflit civil, qui nous ravagea en 1975 et 1976, tournait autour de la définition de l'identité du Liban. Celui-ci était-il un pays arabe, et jusqu'à quel point? D'après lui, si les chrétiens, les maronites principalement, ne voulaient voir dans leur pays qu'un foyer chrétien ouvert sur le monde occidental, les musulmans en général exhibaient une solidarité sans limite avec les causes arabes, et quelque part au détriment de la souveraineté nationale libanaise. L'identité nationale était à ses yeux d'observateur la pomme de la discorde. Si l'on admet qu'en son temps, Salibi avait eu grosso modo raison, est-ce à dire que son explication vaut toujours? Difficilement. Car les querelles ont changé d'enjeu, que de renversement d'alliances et de convictions chambardées. Qui aurait cru en 1975 que le slogan de l'arabisme allait faire place nette à celui de Wilaya al-Faqih comme vecteur de mobilisation des populations insatisfaites? Plutôt un prétexte. Choisir le prisme de la violence politique pour analyser le Moyen-Orient n'étant rien nouveau, neuf, a-t-on pu dire. Mais s'est-on jamais demandé s'il n'y aurait, au-delà des idéologies antagonistes, des intérêts de classe et des identités irrépressibles, d'autres explications à nos conflits internes? Et si les slogans qu'on a toujours brandis n'étaient que des prétextes à querelles ou des alibis? Un coup d'œil sur les Grecs de l'époque classique pourrait nous éclairer. Pour nous comme pour eux, la guerre est naturelle, étant l'expression normale de la rivalité qui préside au rapport entre groupes, jaloux de leur indépendance et soucieux d'affirmer leur suprématie. Cette conception agonistique de l'homme du Levant aurait probablement ses racines ancrées dans l'étau héroïque de la Jahiliya, époque des poètes chevaliers Antar et Al-Mualal par exemple, comme dans les pratiques institutionnelles de l'époque mamelouk, largement reconduites à l'époque ottomane, dit c'est que nous n'avons pas assimilé la polie et son organisation judiciaire pour arbitrer et régler au nom de l'État les rapports entre les divers groupes familiaux, il n'existe pas de frontière nette séparant la vengeance privée et la guerre au sens propre. Entre des vengeurs partant en représailles pour faire payer un crime de sang, une razzia de bétail, un rapt de femmes et une expédition guerrière, la différence tient à l'ampleur des moyens, à l'étendue des solidarités mobilisées, mais les mécanismes sociaux et les attitudes psychologiques sont les mêmes, ainsi la guerre dans ce contexte n'apparaît que comme un aspect, parmi d'autres, des échanges interfamiliaux, une des formes que revêt le commerce entre groupes humains, à la fois associés et opposés. 11. Ayant copié le modèle de gouvernement, à la Franca, 12, mais n'ayant pas intériorisé la notion de polie, nos sociétés vont poursuivre leur itinéraire sanglant. Nos populations ne vont pas cesser de s'entretuer, qu'importe le prétexte.